sommes à l'aube d'une révolution sans précédent.
Ah, je savais que j'aurais dû en acheter il y a 5 ans.
C'est pas utilisé par les criminels, ça?
L'impact environnemental est loin d'être négligeable.
On prépare une ICO qui va tout révolutionner.
Ça va jamais marcher, en fait. 21 millions.
Bienvenue dans 21 millions, l'émission crypto-pédago qui raconte l'histoire passionnante et mouvementée des crypto-monnaies. Ici, vous n'entendrez pas parler de bulles, ni de courbes qui montent et qui descendent. Vous entendrez des pionniers, des gens pour qui le Bitcoin est beaucoup plus qu'une simple spéculation. Tour à tour, ils nous expliqueront cette révolution économique, politique et surtout philosophique. Car oui, le Bitcoin, c'est tout ça à la fois. Je suis Grégory Raymond, crypto-journaliste pour le magazine Capital. Aujourd'hui, je reçois Manuel Valente, le directeur de la Maison du Bitcoin, à Paris.
Il y a clairement un lien et une critique de la finance traditionnelle à travers le protocole, mais bien entendu, ça s'appuie sur tout un tas d'inventions, tout un tas d'idées qui prédataient le Bitcoin depuis longtemps.
Si j'ai choisi Manuel Valente pour ce premier épisode de 21 millions, c'est parce que beaucoup mettent le pied à l'étrier grâce à lui. En plus de son activité de crypto-courtier, il organise des séances de questions-réponses que l'on peut abondamment suivre sur les réseaux sociaux. Il est tombé dans le Bitcoin en 2013, quand une seule unité s'échangeait encore moins de 200$. Manuel Valente est un ingénieur, un passionné de cryptographie. J'ai pensé qu'il était le candidat parfait pour nous expliquer les origines du phénomène. Car pour comprendre le présent, il faut expliquer l'histoire. Nous parlerons Bitcoin, bien sûr, mais aussi Cypherpunk, un mouvement d'idéalistes dont les travaux et la philosophie sont à l'origine de la monnaie électronique.
Alors les Cypherpunk, c'est un mouvement qui est apparu vers la fin des années 80, début des années 90. C'est un mouvement sur Internet de gens qui commençaient à s'intéresser à l'informatique et qui sont assez rapidement rendus compte que à l'époque, début des années 90, toute l'information qui passait sur Internet, que ce soit les mails, que ce soit les premières tentatives de création de communication à travers l'Internet, étaient des informations qui passaient complètement en clair. Donc ça veut dire que n'importe qui pouvait écouter toutes vos communications et lire toutes vos transactions. Et alors c'est des gens qui rapidement se sont dit que c'était une mauvaise chose, et qu'il y avait potentiellement des problèmes qui pourraient arriver, notamment des problèmes avec les gouvernements qui pourraient espionner vos communications ou avec des entreprises qui pourraient exploiter vos données.
C'est étonnant parce que aujourd'hui, on parle beaucoup de la gestion de la vie privée, en tout cas de Facebook, donc c'est toujours d'actualité.
Bien sûr, mais au départ, au début des années 90, on les a pris pour des gentils rigolos. On leur a dit, mais attendez, les gouvernements, ils n'ont pas que ça à faire d'espionner Internet, les entreprises, ils n'ont pas que ça à faire, vous délirez, vous racontez n'importe quoi, c'est de la paranoïa. Et puis au fur et à mesure du temps, quand on a vu par exemple les affaires Snowden, où on s'est rendu compte que oui, les gouvernements nous écoutent, oui, ils exploitent nos données, quand on voit les derniers scandales autour de Facebook qui exploitent activement les données et qui les revend à d'autres entreprises, on se dit que non, ces gens, ils avaient absolument raison dans le fait de vouloir protéger les données et les échanges entre différentes personnes. Et donc, ces gens, les cypherpunks, leur but, leur activité, ça a rapidement tourné autour des mécanismes de cryptographie. Alors, la cryptographie, c'est quelque chose qui est très ancien. Par exemple, Jules César utilisait déjà des protocoles de cryptographie. Donc, la cryptographie, c'est la façon de pouvoir cacher un message. Donc, je prends un message, je le transforme par un algorithme informatique, par même un mécanisme simple, et j'obtiens un message qui va être codé. Ce message, je m'assure que la personne qui est en face de moi, elle a la possibilité de le déchiffrer, mais que personne d'autre n'ait la possibilité de le faire. Donc bien entendu, c'est surtout les armées, au fur et à mesure de l'histoire, qui ont surtout été intéressées par ce genre de technologie. Alors, la cryptographie, elle a continué, mais elle avait surtout un énorme problème. C'est que si on veut échanger un message cryptographique, on est obligé de se passer un mot de passe. Et c'est ce mot de passe qui va permettre de déchiffrer le message. Au début des années 80, on a vu apparaître une nouvelle technologie extrêmement importante qui s'appelait la cryptographie asymétrique. Et pour la première fois, avec la cryptographie asymétrique, on avait la possibilité de pouvoir échanger des messages chiffrés sans jamais devoir traverser le réseau avec le mot de passe de déchiffrement. En simplifiant grandement, l'idée c'était vraiment ça. C'était de dire, je vais pouvoir chiffrer un message, l'envoyer, et même si quelqu'un écoute toutes mes communications, il ne pourra en aucun cas le déchiffrer.
Et on peut vraiment dater le début du mouvement cypherpunk avec l'émergence d'Internet. C'est vraiment ça le catalyseur.
Absolument. Ils échangeaient à travers Internet, à travers des mailing lists, tout le but, tout le commencement de leur mouvement est apparu en même temps que l'émergence des réseaux.
Ok. Donc en gros, c'est des Snowden avant l'heure.
Absolument, oui.
D'accord. Mais mettre en place une telle technologie, c'est peut-être parce qu'on avait vraiment quelque chose à cacher. C'est quoi votre théorie derrière ?
On a souvent cette idée, c'est si vous n'avez rien à cacher, qu'est-ce que vous avez, de quoi est-ce que vous avez peur ? Eux, ils sont partis du principe inverse, c'est-à-dire, a priori, pourquoi est-ce que je laisserais quelqu'un pouvoir espionner mes données ? Pourquoi est-ce que je laisserais quelqu'un écouter mes conversations ? On fait souvent un parallèle qui est intéressant, c'est de dire, à partir du moment où vous êtes sur Internet, n'importe qui peut écouter ce que vous êtes en train d'écrire. C'est comme si vous écriviez dans un journal. Alors que la plupart des gens, ils ont plus l'optique d'être comme s'ils étaient dans un groupe entre amis et en train de discuter. Quand vous êtes avec un groupe entre amis, vous ne vous attendez pas à ce que toutes les informations que vous êtes en train d'échanger se retrouvent complètement sur la place publique. Donc, d'où ce besoin de conserver, de protéger leur vie privée en utilisant justement la cryptographie.
D'accord. Et comment ces gens se sont rencontrés ? Comment on est arrivé à construire un groupe aussi rapidement ? Est-ce qu'ils étaient tous dans la même ville ? Est-ce qu'ils avaient fait les mêmes études ? Comment ils se sont organisés ?
Il y en avait beaucoup qui étaient dans la Silicon Valley, à l'époque, vers la Californie. Mais vous savez, dès l'avènement d'Internet, très rapidement, des groupes ont commencé à se former. Et par centre d'intérêt, si vous commenciez à chercher vie privée, information, etc., vous pouvez rapidement tomber sur des pages web ou des mailing lists qui commençaient à discuter de ces sujets.
D'accord. Et quels étaient les thèmes les plus abordés dans ces mailing lists, dans ces forums web, de quoi on parlait exactement ?
Alors, de la vie privée, de comment on allait protéger les communications entre les personnes sur Internet, comment on allait protéger l'échange de l'information, à la fois par des moyens techniques, mais aussi éventuellement par des actions collectives ou des lois.
D'accord. Qui sont les représentants de ce mouvement ? En tout cas, les tout premiers ?
Alors on peut citer par exemple John Gilmore, qui est la personne qui a organisé l'une des premières mailing lists, la mailing list des Cypherpunk, et qui a vraiment démarré le mouvement avec deux autres personnes qui étaient avec lui, et qui ensuite, cette personne a été un des fondateurs de l'EFF. L'EFF, c'est l'Electronic Frontier Foundation, qui est une sorte d'organisation non gouvernementale américaine, dont le but est de promouvoir les libertés individuelles sur Internet. Donc on a vraiment une continuité entre le départ de ce mouvement et aujourd'hui une NGO qui est quand même relativement importante et très présente dans le milieu des problèmes sociaux.
Est-ce qu'on peut dire des cypherpunk qu'ils étaient anarchistes ou libertariens ou...
Alors il y a certainement des... on voit souvent des sous-courants un peu politiques autour des messages des cypherpunk. Et effectivement, il y en a pas mal qui avaient une approche libertarienne. Il y en a pas mal également qui avaient une approche anarchiste. Même si ces deux courants aux États-Unis sont beaucoup moins éloignés que ce qu'on voit en Europe. Aux États-Unis, notamment, on trouve des gens qui ont pour principe l'anarcho-capitalisme. L'anarcho-capitalisme étant donc une anarchie basée sur le capitalisme où les entreprises peuvent gérer intégralement le fonctionnement de la société sans qu'on ait besoin qu'un État intervienne. Donc quand on pousse vraiment les deux raisonnements du libertarianisme et de l'anarchisme, on arrive effectivement à cette notion d'anarcho-capitalisme.
Est-ce qu'on connaît d'autres inventions que le Bitcoin qui ont été développées par les cypherpunk ?
Alors oui, et même des inventions qui sont utilisées au quotidien.
D'accord, c'est lesquelles ?
Par exemple, lorsque vous allumez votre ordinateur et que vous allez sur Internet, vous aurez remarqué qu'aujourd'hui, sur la plupart des sites, vous aurez l'adresse du site qui va commencer par HTTPS. au lieu de HTTP. Alors HTTPS, c'est le protocole HTTP, mais chiffré. Et donc toutes les connexions sur la plupart des sites aujourd'hui se font de façon complètement chiffrée. Ces technologies ont été développées en grande partie à cause des cyberpunk. On trouve par exemple des gens qui ont créé la fondation Apache, des gens qui ont créé le protocole PGP, qui est le premier modèle de chiffrement grand public qu'on ait pu trouver sur Internet, des gens qui ont contribué au protocole SSL, qui est le protocole qui sert à chiffrer la plupart des données qui passent sur Internet. Donc oui, on a vraiment des technologies qui sont utilisées au quotidien dès que vous allumez votre ordinateur et qui dérivent de cette philosophie cypherpunk.
D'accord. Donc en gros, le peu de vie privée qu'on peut conserver dans notre vie numérique, c'est grâce au cypherpunk qu'elles existent.
Bien sûr. Et alors, bien entendu, grâce aussi à des entreprises qui elles aussi ont repris ce modèle en se disant que c'était utile de pouvoir fournir à leurs utilisateurs des méthodes de communication protégées. Mais après, les cypherpunk, ils ont pu juste vous donner des outils, mais ils ne peuvent pas aller jusqu'au bout. C'est-à-dire, vous pouvez avoir une connexion chiffrée vers un site web, si ensuite vous choisissez volontairement de fournir toutes vos données privées à ce site web, là, ils ne pourront plus rien pour vous.
Là, aujourd'hui, est-ce qu'il y en a des... Est-ce qu'il y a vraiment des représentants un peu connus de ce mouvement-là, ou peut-être que ce mouvement est mort, qu'est-ce qu'il en est ?
Alors, des gens connus, il y en a. On peut citer par exemple Julian Assange, qui est le créateur de Wikileaks, qui est quelqu'un qui a toujours été extrêmement actif dans le monde des cypherpunk, et qui, là, vous voyez, on arrive du monde de la technologie et du monde de la vie privée jusque dans le monde des gouvernements et des secrets gouvernementaux. On a vraiment quelque chose, alors c'est quelqu'un qui est particulièrement proéminent, même s'il est relativement sulfureux, mais qui a fait un travail assez intéressant sur la création de Wikileaks. On peut citer l'auteur du protocole BitTorrent, qui s'appelle Bram Cohen. Donc BitTorrent, malheureusement, qui est pour la plupart du temps utilisé pour télécharger des fichiers illégaux, mais qui justement sert au quotidien pour tout un tas de gens. Et puis, tout un ensemble de gens qui continue à traîner dans le monde de la cryptographie et des crypto-monnaies en général.
J'ai également vu passer le nom de David Chaum dans mes lectures. Cet homme-là, on ne peut pas vraiment dire que c'était un cypherpunk, mais c'est celui qui a un peu donné la puce à l'oreille, qui a un peu mis la puce à l'oreille au cypherpunk en inventant un peu une des premières monnaies électroniques.
Alors oui.
Donc un ancêtre du Bitcoin.
Tout à fait. David Chaum a créé une monnaie qui s'appelait le e-cash. Alors, c'était relativement plus ancien puisque ça avait été créé en 1983. Mm-hmm. Et donc c'était un concept déjà de monnaie privée, de monnaie basée sur de la cryptographie. Mais alors c'était quand même relativement différent par rapport au Bitcoin dans la mesure où c'était une monnaie qui était centralisée. C'est-à-dire mm-hmm. il y avait une banque qui était capable de réaliser les opérations, c'est-à-dire d'effectuer des signatures cryptographiques sur chaque transaction.
Alors là, il faut rappeler que le Bitcoin, c'est un système décentralisé. Aucune autorité n'a la main dessus. C'est bien
exactement.
Ça.
L'un des principes le principe fondamental central du Bitcoin, c'est d'être complètement décentralisé. Et alors, cette monnaie, le e-cash, David Chaum a réussi à l'époque à créer une banque pour pouvoir effectuer donc, des micro-transactions pour tout un chacun.
Donc là, on est dans les années 80, tout début des années 80.
Tout début des années 80. Ouais. Et malheureusement, son projet a assez rapidement fait faillite, peut-être parce qu'il était complètement centralisé et basé sur une entreprise.
D'accord. Et les cypherpunk ont essayé de reprendre un peu ce genre d'idée. Et il y a eu d'autres tentatives avant que le Bitcoin que l'on connaît. Vous pouvez nous en dire plus ?
Bien sûr. Alors, on trouve par exemple en 1997 un système qui s'appelait Hashcash. Donc Hashcash, c'était un système créé en 1997 et qui avait pour but en fait de supprimer le spam sur les emails. Uh-huh. Et la façon dont ça fonctionnait, c'est que on était obligé de fournir ce qu'on appelle une preuve de travail. Une preuve de travail étant une forme de travail fait par un ordinateur qui prouve qu'il a passé du temps à faire ce travail. L'idée étant que lorsque vous envoyez un mail à quelqu'un, vous étiez obligé de faire ce petit travail avec votre ordinateur pour vous empêcher de balancer des dizaines et des centaines de milliers d'emails en parallèle. Mmh. Donc, si vous envoyez juste un email, ça va vous demander une ou deux secondes de travail à votre ordinateur, c'est pas un problème majeur. Mais si vous voulez envoyer 100 000 emails, ça devient beaucoup plus difficile.
D'accord. Et ce procédé est actuellement dans le protocole du Bitcoin. C'est ce qui permet de valider les transactions.
C'est exactement ça. D'accord. Donc c'est là où on voit vraiment les racines de l'intérêt de l'utilisation du Bitcoin. Tous ces algorithmes, toutes ces façons de concevoir le partage de l'information étaient déjà en germe dans toutes sortes de foules de projets autour du monde des cypherpunks.
D'accord. Et il y a eu d'autres initiatives aussi, j'ai cru comprendre.
Oui. Alors on trouve notamment quelque chose qui s'appelle BitGold, qui a été créé en 1998 par quelqu'un qui s'appelle Nick Szabo. Nick Szabo étant justement une des personnes assez proéminentes dans la communauté cypherpunk et une personne que beaucoup considèrent comme l'une des probables, comme étant le véritable Satoshi Nakamoto. Alors Nick Szabo, il avait créé BitGold en 1998, mais il n'est pas arrivé au bout. Il y avait tout un tas d'idées, et tout un tas d'idées qui ressemblaient déjà extrêmement fortement au protocole Bitcoin lui-même.
Donc là, en gros, pour situer, on est 10 ans avant la création du premier Bitcoin.
Exactement. D'accord. 10 ans avant, Nick Szabo a cette idée de créer BitGold, une crypto-monnaie déjà basée sur de la preuve de travail, basée sur de la cryptographie, etc. etc. Alors malheureusement, il n'est pas allé au bout. Il avait juste eu un tas d'idées sur son fonctionnement, mais il n'a jamais réalisé l'implémentation.
D'accord. Et on sait aujourd'hui que Satoshi Nakamoto, donc l'inventeur autoproclamé du Bitcoin, n'a pas travaillé tout seul. Il l'a conçu théoriquement, mais il s'est fait aider. Et est-ce qu'il s'est fait aider donc par ces personnes-là qui avaient déjà travaillé à des ébauches de Bitcoin, en tout cas de monnaie électronique?
Oui, bien sûr. Par exemple, quelqu'un qui s'appelait Alfinet, qui est malheureusement décédé depuis, qui était extrêmement actif dans le milieu des cypherpunks, a très rapidement rejoint le projet Bitcoin pour aider Satoshi Nakamoto. Pour rappel, Satoshi Nakamoto publie le white paper, le document qui décrit le protocole Bitcoin, en octobre 2008 sur une mailing list de cypherpunk et propose ce protocole et demande à des gens s'il y a des gens qui voudraient l'aider. Alors, il y a plein de gens qui sont venus et qui ont dit non, ça n'a aucun intérêt, ça ne marchera jamais. Il y a un certain nombre de gens qui rapidement l'ont rejoint pour pouvoir commencer à travailler sur l'implémentation de ce programme informatique, de ce protocole. Notamment, Alfinet, c'était l'un des tout premiers.
Et donc, justement, que sait-on de Satoshi Nakamoto, à part qu'il était un cypherpunk parmi tant d'autres?
Alors, on sait un certain nombre de choses sur Satoshi Nakamoto. On sait déjà ce qu'il savait faire. Donc, c'est quelqu'un qui connaissait bien l'informatique, puisqu'il a lui-même développé une bonne grosse partie du protocole Bitcoin. Donc, c'est un informaticien, il savait coder. On sait que c'est quelqu'un qui était également quelqu'un d'un background universitaire, puisque le white paper Bitcoin, c'est quelque chose qui est construit comme un document académique, donc forcément quelqu'un qui a un background académique. Beaucoup de gens pensent qu'il a une culture plutôt britannique, puisque dans ses écrits, on voit certains mots écrits de façon à l'anglaise plutôt qu'à l'américaine, et quelqu'un qui, a priori, était nativement anglais. On voit également que dans le premier bloc du protocole Bitcoin, il y a une citation du Times de Londres du 3 janvier 2009, ce qui peut penser également à quelqu'un qui au moins vivait en Angleterre. À part ça, on ne sait pas énormément de choses sur Satoshi Nakamoto. On ne pense pas qu'il soit japonais, du coup. Ça réduit le nombre de personnes possibles à peu près une quinzaine de personnes dans le monde qui toutes, a priori, ont nié avoir été Satoshi Nakamoto.
D'accord. Et pour en revenir au Bitcoin, on sait que le Bitcoin, en fait, c'est avec la blockchain, permet de tout tracer, absolument tout tracer. Donc, au niveau de la vie privée, c'est plus vraiment ça, quoi. Donc, le Bitcoin n'est pas vraiment une créature des cypherpunks.
C'est une question intéressante. Alors, ce qu'on peut dire déjà, c'est que les adresses qui sont sur la blockchain, elles ne sont pas directement attribuables à un individu ou à un autre. On est juste en train de dire tel numéro de compte a envoyé tel montant à tel autre numéro de compte. Alors de fait, oui, on peut retrouver la trace des auteurs de chaque transaction, notamment par le fait que chez les professionnels qui vendent et achètent des crypto-monnaies, on va vous demander une pièce d'identité lorsque vous venez effectuer une transaction. Et on peut dire qu'à terme, dans quelques années, il sera peut-être même plus nécessaire de devoir échanger des euros ou des dollars contre des bitcoins. Si vous êtes dans un monde 100% bitcoin, là, de fait, vous êtes complètement anonyme.
D'accord. Et est-ce qu'on peut dire que les monnaies anonymes type Monero, Zcash et tout, sont vraiment les dignes héritières de ce que les cypherpunks avaient développé?
Alors, effectivement, on peut l'affirmer. Par exemple, le créateur de Zcash, qui est une monnaie qui, elle, veut être complètement anonyme et ne laisser aucune trace de chaque transaction, est lui aussi un des premiers cypherpunks. Et donc, bien entendu, ça relève de cette philosophie globale.
D'accord. Et au tout début, quand je me suis intéressé au Bitcoin, je voyais sa date de naissance, enfin sa date de création, 2008-2009. Ça coïncidait un peu avec l'éclatement de la crise financière. Et j'ai pensé pendant longtemps que le Bitcoin était une réaction à cela. En fait, c'est quand on regarde dans le rétro, le Bitcoin a été pensé bien avant et la crise financière est peut-être qu'une coïncidence, en tout cas quelque chose qui a simplement servi à accélérer sa création.
Je pense aussi. Satoshi Nakamoto avait déclaré un jour qu'il avait commencé à bosser sur le protocole Bitcoin dès 2006-2007. Donc c'est quelque chose sur lequel il réfléchissait déjà depuis un moment. Alors bien entendu, la crise financière de 2008 a été potentiellement un catalyseur pour que Satoshi Nakamoto se décide à véritablement lancer ce protocole. Alors, c'est pas non plus un hasard complet si dans le tout premier bloc de Bitcoin qui a été créé, dans le tout premier Bitcoin qui a généré, Satoshi Nakamoto a inséré un petit message. Et ce message, c'est le chancelier britannique se décide à faire un deuxième programme d'aide aux banques. Donc on voit qu'il y a une critique du monde financier classique rien que par le biais de ce message inséré dans le premier Bitcoin. Donc il y a clairement un lien et une critique de la finance traditionnelle à travers le protocole, mais bien entendu, comme vous dites, ça s'appuie sur tout un tas d'inventions, tout un tas d'idées qui prédatait le Bitcoin depuis longtemps.
Et là, aujourd'hui, parmi les aficionados du Bitcoin, vous pensez qu'ils sont conscients de là d'où vient le Bitcoin? Quelle est son histoire?
Non, malheureusement. Il y a relativement peu de personnes qui sont intéressées vraiment à cette préhistoire du Bitcoin et à cette façon dont il est arrivé sur la scène. Même si, bien entendu, il y a beaucoup de gens qui, de plus en plus, sont conscients des problématiques autour de la vie privée et des menaces qui proviennent à la fois des gouvernements, mais également des entreprises privées. Il y a d'autres projets aussi qui ne rentrent pas tout à fait dans la philosophie cypherpunk, mais qui s'en rapprochent assez fortement. Par exemple, on peut citer quelqu'un qui s'appelle Richard Stallman, qui est le créateur de ce qu'on appelle le protocole GNU.
Alors GNU, qu'est-ce que c'est?
GNU, c'est quelque chose qui a été inventé dans les années 80. Et l'idée, c'était cette fois de dire le logiciel, on ne peut pas faire confiance aux entreprises pour créer des logiciels en qui on peut faire entièrement confiance. Parce que ces entreprises vont en profiter pour récupérer des données sur vous. Donc le principe de GNU et de la fondation qui en a découlé ensuite, ça a été de créer tout un ensemble de logiciels, dits des logiciels libres, que n'importe qui pouvait vérifier. Vous pouvez vérifier le contenu de ce logiciel, que n'importe qui pouvait aider à développer. Et alors, justement, Bitcoin, c'est du logiciel libre. N'importe qui peut aller vérifier le contenu du protocole, n'importe qui peut aller lire ce qu'on appelle le code source, pour vérifier s'il n'y a pas des failles, s'il n'y a pas des trous de sécurité ou autre. Et donc, ces mouvements qui... Richard Stallman n'a jamais été un cypherpunk avoué, mais on a vraiment cette notion de protection des libertés individuelles et aussi de méfiance par rapport au gouvernement et par rapport aux corporations.
D'accord. Et vous pensez qu'aujourd'hui, le Bitcoin appartient toujours à cette mouvance-là où les cypherpunks l'ont donné en héritage et c'est aujourd'hui les développeurs qui ne sont pas cypherpunk qui s'en occupent? Qu'est-ce que vous pensez?
Alors, je pense qu'il y a toujours un peu cette philosophie qui est donc un peu de rejet des institutions classiques pour avoir quelque chose qui soit justement décentralisé, qui soit sous le contrôle de personne. Parce que l'idée même du concept de décentralisation, c'est-à-dire on va se méfier des institutions. À partir du moment où vous voulez donner le contrôle à quelque chose, bah, ça va être quelqu'un qui va être à qui on va donner un pouvoir et qui va pouvoir éventuellement être corrompu et pouvoir détruire le projet. Donc en ayant quelque chose qui soit complètement décentralisé, on se protège contre ce genre de menaces et donc ça reste à l'intérieur d'une philosophie de liberté individuelle et de protection individuelle.
Merci Manuel.
Avec plaisir.
Merci beaucoup à Manuel Valente d'être venu assister à la création du premier bloc de 21 millions. 21 millions, c'est une émission réalisée par le magazine Capital. Son thème musical a été composé par Ezad. Vous trouverez ses références en description. Dites-nous ce que vous avez pensé du contenu sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me contacter sur Twitter, Grégory_Raymond, et me suggérer le sujet que vous souhaiteriez entendre au prochain épisode. N'oubliez pas de mettre une bonne appréciation à 21 millions sur SoundCloud et YouTube. À bientôt !